Les hommes de combat, inédit. Publié dans le journal de Vallès, alors en exil à Londres, cet éloge de Louise Michel, pourtant des plus enthousiastes, achoppe violemment sur les questions de genre, et ce, dès la première phrase. Son engagement s'explique ici par une essentialisation de la nature féminine, par une maternité inassouvie, transcendée dans la lutte politique. Si ce texte rappelle à quel point Louise Michel est admirée pour sa générosité sacrificielle, s'il rappelle aussi qu'elle est une femme combattante, l'implicite de ce panégyrique procède d'une des plus violentes assignations de genre du siècle. L'homme se construit par son libre arbitre et sa raison, et peut ainsi prétendre à l'exercice de la souveraineté, tandis que la femme est déterminée par sa nature et est donc exclue du politique. Significativement, Louise Michel, dans cet article, n'est pas appelée citoyenne. Louise Michel. Oui, Louise Michel, notre Jeanne d'Arc à nous, est un homme de combat. Cette sœur de charité est aussi un frère d'armes. Qu'allait-elle faire, dit-on, dans cette galère? Certes, ce n'est pas à la femme d'abandonner les œuvres de la paix pour les œuvres de la guerre, d'échanger l'aiguille contre l'épée. Il semble que la femme, qui incarne l'amour, non pas la haine, soit plutôt à sa place au foyer que sur les barricades. La fumée du pot-au-feu lui sied mieux que la laine embrasée du canon. Épouse et mère, elle doit présider à la vie. Puisque le génie de la destruction n'a pas pu encore être banni de l'humanité, qu'elle laisse au moins à son compagnon, à son égal, moins favorisé pourtant, la charge lamentable des besognes de la mort. Soit, qui a dit le contraire? À qui donc incombera la masculinisation de l'héroïne? Qui plus que Louise? Qui mieux qu'elle était femme? Mais une loi de fer lui a interdit les charmes du ménage, les devoirs simples du foyer. Une loi de fer l'a empêchée d'être et de rester femme, de devenir épouse et mère, pour en faire un homme, un soldat, finalement un galérien. Avant de l'exiler de la patrie, la fatalité sociale l'avait exilée de son sexe. Il n'y avait pas plus de place pour cette sainte au sein de la famille qu'au sein de la société. Elle était de ceux qui naissent, qui vivent et qui meurent en marge. À qui la faute? Il n'eût pas fallu qu'il y eût ailleurs des misères à soulager, des larmes à tarir. Qu'est-ce qu'un mari, qu'une nichée, pour qui voudrait avoir un monde, l'humanité tout entière et des souffrants à servir, à aimer? Elle se devait à tous les pauvres, à tous les faibles, à tous les meurtris, tous étaient les siens. Avoir une famille quand tant de pauvres sont condamnés au veuvage éternel et à l'orphelinat à perpétuité, tirer discrètement le verrou sur un foyer à soi quand d'autres ne pourront se payer ce luxe, lui eût paru un accaparement égoïste d'avare, presque un vol fait à la foule déshéritée. Celle qui, amnistiée, revendique, dit-on, l'exil comme un droit, tant qu'il restera un compagnon de défaite sur le rivage calédonien. Celle-là ne pouvait se permettre les joies privilégiées dont les vaincus de la grande bataille humaine sont à jamais exclus. Ne lui reprochez pas d'avoir déserté l'alcôve et redouté le berceau. Si tous les petits avaient la béquille, si tous les couples avaient le lendemain garanti, si le travail était affranchi, la liberté assurée, la justice sauve et la misère proscrite au lieu des misérables, mieux que vos bourgeoises vulgivagues, elle eût su rendre un homme heureux et bravement élevé de futurs citoyens. Mais d'autres avaient faim, d'autres grelottaient devant le buffet vide ou s'encanaillaient au coin des bornes tentatrices, sans épouse ou sans mère. Ne lui reprochez pas d'avoir élargi son amour. c'est à la grande famille qu'elle s'est donnée tout entière, chair et sang, intelligence et cœur. C'est à la foule qu'elle a prodigué les inépuisables trésors de sa maternité inassouvie. Les deux sièges marquent la dominante de la vie de Louise. N'ayant pas d'enfants à elle, elle prend les enfants des autres, ceux dont les pères sont aux avant-postes et dont les mères, à la porte du boulanger ou du boucher, attendent, sous la neige et la mitraille, les pieds dans la boue glacée, leur lot de pain de son ou de viande pourrie. Elle prend ceux qui vagabondent dans le ruisseau et ceux qui s'engourdissent devant l'âtre sans feu, les museaux roses et les fronts blêmes, les espiègles que les bombes font rire et les effarés que la disette fait pleurer. Elle ravitaille toute cette marmaille abandonnée, débarbouillant les plus jeunes, hébergeant, instruisant les autres, leur apprenant à aimer la patrie, l'indépendance, la solidarité, la justice. « Ce sont mes enfants, » dit-elle, avec un accent de tendresse éloquente que de vraies mères pourraient envier. Elle ne leur parle pas du ciel, par exemple, n'aimant pas la tyrannie dont, catholique tard convertie, fervente longtemps jusqu'au confessionnal, une coûteuse expérience la naguère enfin désabusée. En revanche, elle les nourrit souvent, et les parents par-dessus le marché. Cette partageuse ne garde rien pour elle. Sa fraternité crevait l'individualisme propriétaire comme le particularisme familial. Pour le prochain qu'elle aime pour lui-même, non pas pour l'amour de Dieu, cette indomptée se fait mendiante. Pas de jour qu'elle ne vienne en solliciteuse à la mairie de Montmartre plaider la cause de ses protégés. On ne lui fait pas toujours bon accueil, on la trouve crampon. Elle est toujours là, patiente, résignée, infatigable, insensible aux rebuffades et aux humiliations. Une fois pourtant, elle arrache 200 francs. C'est, lui dit-on, pour meubler son école, la plus dégarnie de l'arrondissement, et un peu aussi pour la rémunérer de ses services. Mais elle, trouvant que les murs peuvent attendre plus longtemps que les estomacs, distribue le tout à sa couvée. Portez cela à vos parents, comme cela ils aimeront la République. Elle n'aurait pas compris cette République qui repousse et affame les humbles. La charité n'a pas de drapeau. Et Louise s'en va frapper à toutes les portes, auscultant tous les cœurs et toutes les bourses, sommant la réaction elle-même, sans fausse répulsion ni fausse honte de contribuer pour sa part à l'œuvre commune. Elle ne revient pas toujours bredouille, la rabatteuse d'aumônes, de ses incursions sur le territoire ennemi. Telle visite inattendue à son oncle, un vieux Richard avec lequel ses opinions politiques l'ont brouillé à mort depuis tantôt 8 ans, lui vaut une somme considérable, 14 francs. Tout passe, naturellement, ou à passer l'allocation de la mairie, ce sont ses enfants et ses blessés qui en profiteront. Car Louise ne dirige pas seulement une école, elle dirige aussi une ambulance rue des Rosiers. Le soir venu, l'institutrice se fait infirmière, la mère redevient épouse, l'épouse vierge des souffrants et des isolés. Celle qui a passé ses jours avec des bébés sur les genoux passe la nuit au chevet des malades. Elle couche là, au pied des lits, tout habillée sur une mauvaise paillasse de campement. Les soldats de Lecomte l'y surprennent à l'aube du 18 mars. Sans l'arrivée des fédérés victorieux, elle allait être passée par les armes avec 6 membres, permanence du comité de vigilance. Mais l'émotion ne brise pas son énergie, ne tue pas son dévouement. Elle n'en reste pas moins à son poste jusqu'à la nuit, oubliant, pour soigner les blessés, de manger et de boire. Où donc a-t-on vu qu'elle méconnaît la sublime mission de son sexe? Qui donc a dit que les vertus féminines lui font défaut? Pas une misère, pas une douleur ne frappe à sa porte en vain. Même elle va au-devant des suppliques, et sa compassion sait sonder les plaies dissimulées. Être la consolation des affligés ne lui suffit pas, elle tient à se faire leur servante. Qu'on donne à ses protégés les secours qu'elle réclame en leur nom, cela ne rassasie pas sa charité débordante. elle y voudra adjoindre ses services personnels, ses affectueuses prévenances que ne connaît pas la rude bienfaisance officielle. On la verra grimper les escaliers humides et noirs, une botte de paille municipale sous chaque bras, et disposer elle-même, de ses mains blanches et bourgeoises, la couche neuve de la pauvre vieille qui veut échanger son grabat de noces contre un morceau de pain. Celle-là aussi est de ses enfants. Maintien de la virago de la femme soldat. Ce n'est ni Olympe de Gouges, ni Théroigne de Méricourt, ni même la femme Roland, le bableu sentimental, l'héroïne égoïste des mystagogues. C'est la mère de famille. Cependant, dans les nuits d'alerte courroucée que va sonner bientôt une explosion terrible, Louise est toujours la première levée. C'est elle la première qu'on rencontrera au but, au flanc des canons reconquis. Fille au guet, le regard tendu dans l'immensité des arbres, une petite carabine cachée sous le long châle qui drape cet ange sans sexe du sacrifice, comme un fourreau de deuil. Cependant, elle figure encore dans la sortie du 4 avril. Un chapeau noir, de forme démodée, les recouvre, laissant tomber sur le visage la trappe d'un voile de tulle, également noir, qui ne se relève que dans les pauses de la marche ou la conversation. Louise ne sort jamais qu'enveloppée des pieds aux épaules, sur une longue robe étroite, boutonnée jusqu'au cou en soutane, d'un grand châle, noir comme le reste du costume, car elle porte le deuil éternel des revendications humaines. C'est sous ce châle que se cache, dans la bataille, la carabine légendaire.